L'émission de Francis Barrault sur la randonnée et la découverte de sites extraordinaires, c'est maintenant et c'est sur les ordres de Radio Galaxy 98.5. Bonjour. Aujourd'hui, dans notre émission Montagne, je reçois Louis Houdoubert, qui est pyrénéiste de renom et bien plus que ça, car il est aussi photographe, cinéaste et conférencier. Louis Houdoubert, comment et à quel âge vous avez découvert les Pyrénées qui sont devenues votre lieu de prédilection ?
Eh bien, dans le Haut-Vestre, puisque quand j'étais tout petit, dès l'âge de 6 ans, j'allais à la serre, près de Sainte-Croix-Volvestre, et j'allais garder les vaches, et j'étais face au Mont-Valier. Alors, des montagnes que l'on a comme cela en plein visage, c'est, quand on est petit, assez mystérieux. D'autant plus que mon grand-père me racontait des histoires de passeurs, de contrebandiers. Alors, tout cela, c'était mythique. Et puis, avec des camps de jeunes, j'ai commencé d'aller vers les premiers sommets du Volvestre, puis des Pyrénées ariégeoises.
C'était quoi comme camp de jeunes qui vous a permis de vous échapper sur les Pyrénées ?
Bon, c'était des camps de jeunes de Caserres, puisque je suis né à Caserres sur Garonne, donc... On partait ensemble avec un petit groupe, 6, 7, 8. Voilà, puis après, j'ai continué quand j'ai eu le vélo. Puis quand on a eu la mobilette, alors on partait à mobilette.
De Caserres jusque...
Jusque dans l'Ariège.
Oh là.
Et oui, le Crabert, le Maubermais, le Mont-Valier. C'est pour nous, c'était l'Annapurna.
Et vous faisiez que de la randonnée, là, à ce moment-là ?
Ah oui. Là, c'était que oui, puis randonnée. Je me suis mis à grimpailler, évidemment. Voilà. Après, avec la corde du mulet de mon grand-père. Hein.
Et c'était en quelle année ça ?
Oh, il y a plus de 50 ans quoi.
D'accord. Bon.
Ça date de quelques années.
À travers vos livres, on ressent une relation intime avec nos belles Pyrénées et aussi un parcours de montagnard atypique. Pouvez-vous nous parler de votre relation avec la montagne, votre état d'esprit face à l'immensité de Mère Nature ?
Quand j'étais tout seul à garder des vaches dans le silence, l'immensité de ces montagnes, il y a un certain mystère. Et quand on est en montagne, eh bien, on la respecte, on la trouve belle. Et c'est surtout pour le plaisir que j'ai commencé d'y aller, pour la joie de l'effort sportif peut-être, puis ensuite avec les copains, avec les autres, cet esprit d'équipe. C'est comme ça que, petit à petit, j'ai pensé que faire profiter d'autres. J'ai conduit des milliers de jeunes, des lycées, et certains sont devenus guides d'ailleurs. Et on partait pour des camps de plusieurs jours en montagne pour explorer. Parce que moi, ce qui m'a toujours plu, c'était d'ouvrir des voies, d'aller dans l'aventure, l'inconnu, faire de grandes traversées d'arêtes, les crêtes des Alpes, les crêtes de l'Oisan, toute la traversée des Pyrénées, voilà, c'était... partir un peu à l'aventure, comme quand on part pour le chemin de Saint-Jacques, que l'on part loin. Bon, j'ai fait que quelques solos. Alors, à ce moment-là, on est face à soi-même, et plutôt, c'est tout à fait intérieur. Bon, mais on ne peut pas le partager. Mais j'ai surtout aimé le faire corder et partir avec d'autres pour pouvoir partager, retrouver des amis 30, 40 ans plus tard, comme ça m'arrive, échanger sur... les voies que l'on avait effectuées ensemble, les moments difficiles peut-être, les moments de joie. On a quelque chose d'intense à partager à ce moment-là.
Oui, oui, des moments d'amitié importants.
Oui, d'amitié.
Je sais que vous n'êtes pas que pyrénéiste, vous faites aussi partie de ces hommes qui ont voyagé sur tous les continents, je dirais. Je pense entre autres à l'Asie centrale, les Andes, l'Himalaya, l'Amérique du Nord, l'Islande, le Maroc, et j'en passe bien sûr. Et dans toutes ces aventures hors du commun, c'est quoi qui vous a attiré le plus ? La performance physique, les émotions d'un sourire ou d'un moment partagé avec les gens locaux, la beauté des paysages ? Dites-moi, c'est quoi ?
Et tout est mêlé. Il y a, lors de la première expédition en Afghanistan, en 1969, une découverte totale. On était parti avec une voiture, on s'est arrêté partout pour bivouaquer, passer la nuit à la Belle Étoile, toujours. Et ensuite, rencontrer des gens toujours chaleureux, en particulier en Afghanistan, quand on est arrivé au fin fond du Wahan, eh bien, on a trouvé des gens qui sont devenus des amis, puisque en 71 on les a retrouvés. On a fait le plus haut sommet de l'Afghanistan, le Noshak, avec ma sœur. On a fait des premières, mais c'était surtout la découverte de ces gens, ces populations très simples, et leur habitat, leur façon de vivre, même sans parler la langue, mais avec une dizaine de mots, on arrive facilement à communiquer. Et ensuite, cette aventure totale, pratiquement, puisqu'on n'avait pas de carte, on est parti. Et alors, chaque fois que je suis parti en expédition, je ne m'informais pas trop pour connaître un peu des détails, mais découvrir sur place. Et les gens, que ce soit dans le Karakoram, au Tibet, en Patagonie ou ailleurs, une façon de se mettre sur le terrain, au niveau des populations, que ce soit sur les hauts plateaux des Andes, partager une hutte, une soirée, une nuit avec une famille, et puis après avoir fait un beau sommet, retrouver ce qui est pour eux l'essentiel, leur terre et leur façon de vivre.
Ouais, façon de vivre très simple en fait.
Très simple, voilà. Oui.
Juste aller à l'essentiel et profiter de l'essentiel.
C'est ça, oui.
Dans les Pyrénées françaises ou espagnoles, est-ce que vous avez une région ou un lieu qui vous attire plus qu'un autre ?
Oh bien, il y a surtout, oui, en Aragon, les fameux canyons que j'ai découverts grâce à Lucien Brillet et ses textes, et avec des amis montagnards de Barbastro et de Huesca, dès les années 55-60, et c'est ainsi que j'ai commencé, j'étais le seul à y conduire des groupes.
Vous parlez des canyons de la Sierra de Guara, je présume ?
Oui, d'accord. Voilà.
Oui, c'est...
Et j'avais un pied-à-terre là-bas, dans un petit village où il n'y a que 4 habitants. Et avant, on allait camper, on faisait des grands feux. C'était la vie à l'attrapeur. Il n'y avait même pas de route goudronnée. Enfin. Et puis après, ça a été un parc. Donc, on ne pouvait plus camper, on ne pouvait plus. Ou alors, il fallait dans des campings et j'ai acheté une petite maison.
Et si ce n'est pas indiscret, c'était à quel village que vous avez...
Ah, c'était à Morano, à la sortie
Morano,
de la Peonera. Là.
Oui, oui, exactement.
Voilà.
Ah, oui.
Ouais, et avec Antonio, pendant des années, on a partagé jusqu'à... Il est mort d'ailleurs dans le jardin.
Ah bon ?
Oui.
Ah. Ah, c'est
il a cultivé un grand jardin.
Ah, ouais.
Jusqu'à Saint-Anne. Il avait une petite source dans son jardin parce que le problème, c'était l'eau là-bas. Ça deviendra d'ailleurs dans les Pyrénées un problème parce que moi, j'ai parcouru tous les lacs des Pyrénées, 2500 ouais. lacs, et j'en ai rencontré une trentaine à sec, des petits laquets qui se sont asséchés parce qu'il y a une sécheresse. 85-86, il y avait eu une bonne sécheresse aussi.
Ouais.
Et alors maintenant, scientifiquement, on dit que oui, on est dans des périodes de réchauffement. Et
ah oui, avec le réchauffement planétaire,
depuis plus de 50 ans, je vois que les glaciers sont grignotés.
Je vois, l'autre fois, je suis allé faire, c'est le pic Lol, là, vers le Nouvelle-Vielle. Bref, du glacier, avant on monte une petite cheminée pour passer, mais c'est impressionnant, la petite cheminée fait maintenant plus de 20 mètres presque.
Oui,
alors
et
que,
oui.
Voilà, il y a des topos,
et voilà.
C'était vraiment petit, il n'y avait rien.
Oui, oui, et oui. Mais même le glacier de la face nord,
oui,
qui au début, il y a 60 ans, tombé dans le lac, Tourat,
oui.
Et maintenant, il y en a une petite bande.
Ouais, voilà,
opposé, il n'y a plus de glaciers. Ouais. Ben oui, au Mont Perdu, les barres de Sérac sont bien séparées.
Ouais, ouais, c'est
celui de la Netto, il est maintenant très réduit. Enfin, l'hiver, quand même, elles prennent une teinte blanche. Et pourtant, quand elles ont la neige, bon, ce sont des montagnes qui paraissent beaucoup plus fantastiques, nos Pyrénées. Même l'été, quand même, quand on voit... les grands canyons, Arasas, toutes les vires d'Ancestrales, le canyon d'Anisclo, Esquain,
Cirque
de Garani, tout ça, c'est quand même...
Ça fait partie des décors les plus beaux d'Europe.
Les plus beaux d'Europe.
Ah,
oui, c'est merveilleux.
Ah oui, complètement. Louis Houdoubert, vous continuez à photographier et à écrire sur vos belles Pyrénées ou pas ?
Oui, pour l'instant... je me suis un peu calmé, mais je fais toujours de la photo panoramique pour le plaisir. Dernièrement, aux éditions Libris, j'ai sorti 2 petits livres sur les lacs. Mais le dernier qui est sorti aux éditions Milan, c'est les plus beaux sites des Pyrénées. Avant, il y avait eu les plus beaux lacs, les Pyrénées grandeur nature. Enfin, beaucoup de livres bien illustrés avec des photos panoramiques. Mais j'ai toujours à l'argentique, je n'ai pas fait encore de...
De numérique.
J'ai une dizaine d'appareils. Alors, je les amortis.
Vous avez une ou plusieurs anecdotes, je dirais, à nous raconter sur des moments passés en montagne qui auraient pu finir en cauchemar ou en situation tragique, tout simplement.
Oui, il y en a des quantités d'anecdotes... Des joyeuses, mais vous me demandez une anecdote qui aurait pu finir mal.
Oui, par
c'était
exemple.
Dans les Jorasses, par exemple, il y a quelques années de ça. Hein. On était avec ma femme, et, enfin qui n'était pas encore ma femme, et puis Serge Castéran, qui n'avait jamais fait de bivouac. Ah. Et donc on monte dans la façade des Jorasses, et à 100 mètres du sommet, on a une tempête, donc on se met vite sous un petit nylon. Seulement la tempête, on avait eu des bonnes provisions météo, on n'était pas aussi sûr peut-être que maintenant.
Oui.
Et alors, on a eu 4 jours de neige, de tempête.
Et vous êtes resté 4 jours.
Et alors on est resté là, et évidemment, on suçait de la neige, on n'avait plus rien à manger. Et rien à boire, alors on n'avait pas le réchaud. On comptait sortir rapidement, et là on est resté 4 jours, 4 nuits à pousser la neige qui nous poussait dans le vide. On était juste sur une toute petite, on avait les fesses et les jambes dans le vide, voilà. Ça s'est bien terminé parce que nous, on s'en est tiré. L'hélicoptère est venu nous chercher quand même parce qu'on avait les vêtements qui craquaient de gel. Et donc si on avait voulu sortir par le sommet... C'était tellement enneigé qu'on aurait mis encore toute une journée et on se serait complètement gelé.
D'accord. Donc il n'y a pas eu de doigts gelés, rien du tout.
Ça, de doigts gelés pour Serge, les doigts des pieds.
Des pieds, d'accord.
Mais enfin, on lui a sauvé.
Ce qui n'empêche pas qu'il est devenu un très grand escaladeur.
Ah oui, bien sûr. Oui, un des plus grands.
Oui, complètement.
Meilleur guide de sa promotion.
Et en parallèle, une anecdote joyeuse.
La plus joyeuse, c'est... Peut-être quand on a fait ce sommet vierge en Afghanistan, le premier, avec ma sœur, avec un copain, Albert Pradal, qui était un de mes frères de cordée, qui devait mourir au Spijol. On était encordés ensemble lorsqu'un dièdre l'a tué en le projetant dans le vide. Mais là, quand on s'est retrouvé sur ce sommet, au milieu de l'Hindou Kouch, on voyait des milliers de sommets. Il était prêtre aussi, il venait de faire un mariage juste la veille du départ. Il avait promis de monter un bout du voile de la mariée au sommet. Ah. Et alors, on a la photo, sur le piolet, il y a un bout du voile de la mariée. Il faisait beau, c'était magnifique. Ah, ça, c'est des souvenirs inoubliables.
Ah oui, ça doit être un moment d'émotion très fort.
Voilà, mais il y a eu beaucoup de beaux moments, de beaux moments de rencontre sur des crêtes.
Vous préférez, quand vous êtes en montagne, que vous deviez rester sur 2 jours, faire un bivouac pour voir les levers coucher le soleil ou tout simplement revenir sur un refuge pour dormir?
Ah non, toujours, même dernièrement et toujours, là je vais le plus possible bivouaquer quand il fait beau.
Bien sûr.
Oui. Ah oui, et d'abord pour les photos, rien ne vaut le lever ou le coucher du soleil, donc il faut y être, là-haut sur les sommets. Et donc il faut aller bivouaquer. Et puis, il m'est arrivé de bivouaquer avec temps incertain, puis effectivement on a le crachin, on a le mauvais temps, mais on reste dans le duvet, et puis le lendemain on redescend, tant pis, mais on a fait une belle photo le soir. Bon, le problème c'est d'apprécier ces moments-là, partager le casse-croûte, attendre les derniers rayons de soleil, profiter de ces instants très forts, du silence, de la paix de la montagne. Voilà, alors j'amène souvent des amis aussi, comme ça, pour bivouaquer. Il y en a beaucoup qui aiment.
On vous remercie beaucoup, Louis Audoubert, d'être venu sur nos ondes de Radio Galaxie pour nous conter un peu de votre parcours pyrénéen. Merci.